Chapitre 17. L'épreuve. La cérémonie de l'homme se déroule normalement durant la lunaison du 14e anniversaire d'un garçon. Tous n'ont pas droit à cet honneur. Il faut un homme pour parrainer et baptiser le candidat, et il doit trouver 12 autres hommes qui acceptent de reconnaître que le garçon est digne et prêt. Comme je vivais parmi les hommes d'armes, j'avais entendu parler de cette cérémonie, et j'en savais assez sur sa gravité et sa sélectivité pour être sûr de n'y jamais participer. D'abord, on ignorait ma date de naissance, et ensuite, je ne connaissais pas d'homme, ni 12, ni même un seul, qui pût me juger digne. Mais une certaine nuit, des mois après que j'eus subi l'épreuve de Galène, je me réveillai entouré de silhouettes en robe et en capuche. Sous les obscurs capuchons, je distinguais les masques des piliers. Nul n'est autorisé à décrire les détails de la cérémonie, mais je pense pouvoir en dire ceci. À mesure que chaque vie m'était déposée entre les mains, poisson, oiseau, animal terrestre, je choisis de la libérer, non en la tuant, mais en la rendant à son existence sauvage. Il n'y eut donc pas de mort à ma cérémonie, et par conséquent, pas de festin. Mais même dans l'état d'esprit particulier qui était le mien en ces circonstances, je trouvais qu'il y avait eu assez de décès et d'effusions de sang autour de moi pour toute une existence, et je refusais de tuer de mes mains ou de mes dents. Mon parrain décida néanmoins de me donner un nom, signe qu'il ne devait pas être trop mécontent. C'est un nom tiré de la vieille langue, qui n'a pas d'alphabet et qui ne s'écrit pas. Je n'ai rencontré personne avec qui j'aurais pu choisir de partager la connaissance de mon nom d'homme. Mais je puis divulguer ici, je pense, son ancienne signification. Il veut dire « le catalyseur », « le modifieur ». Je me rendis tout droit aux écuries voir Martel, puis suis. D'abord mental, mon angoisse à l'idée de ce qui m'attendait le lendemain devint physique, et pris de nausée, je m'appuyai le front contre le garrot de ma jument. C'est dans cette position que Burick me découvrit. J'entendis le martèlement régulier de ses bottes dans l'allée centrale, puis leur brusque arrêt devant le box de suie, et je sentis qu'il me regardait.
« Qu'est-ce qu'il y a encore ? »
fit-il d'un ton sec. Et je perçus dans sa voix à quel point il en avait par-dessus la tête de moi et de mes problèmes. Si j'avais été moins accablé, mon orgueil m'aurait poussé à me redresser et à répondre que tout allait bien. Mais je murmurais, la bouche dans la crinière de suie. Demain, Galène a l'intention de nous mettre à l'épreuve.
Je sais. Il a exigé, et sur quel ton, que je lui fournisse des chevaux pour son plan imbécile.
J'aurais refusé s'il ne m'avait pas montré un sceau du roi qui lui en donnait l'autorité.
Il ne me pose pas de questions. « Je n'en sais pas plus, »
ajouta-t-il d'un ton revêche, comme je levais soudain les yeux vers lui. « Je n'en avais pas l'intention, » rétorquai-je, vexé. « Je prouverai ma valeur à Galène sans tricher, ou pas du tout. »«
Tu n'as aucune chance de réussir cette épreuve, n'est-ce pas ?»
Il avait parlé d'un ton dégagé, mais je vis bien qu'il se raidissait dans l'attente d'une déception. « Aucune. » répondis-je sans embâge, et nous restâmes un moment sans rien dire, à goûter les accents définitifs de ce mot.
« Bon. »
Il se racla la gorge et remonta sa ceinture d'un coup sec.
« Alors, autant que tu te débarrasses de cette épreuve et que tu reviennes ici. »
Et dans un effort pour minimiser les conséquences de mon futur échec, il ajouta
« Après tout, tu te débrouilles plutôt bien dans les autres domaines. » On ne peut pas réussir dans tout ce qu'on entreprend.
Sans doute pas. Tu veux bien t'occuper de Martel pendant mon absence?
D'accord.
Il fit mine de s'éloigner, puis se retourna presque à contre-cœur.
Tu vas beaucoup manquer à ce chien?
J'entendis la question qu'il ne posait pas, mais j'essayais de l'esquiver. Je n'en sais rien. J'ai dû le laisser seul si souvent pendant mes leçons, que je ne lui manquerai pas beaucoup, j'en ai peur.
Ça m'étonnerait.
fit Burick carrément. Il se détourna.
« Ça m'étonnerait même beaucoup !»
ajouta-t-il en enfilant l'allée entre les boxes. Et je sus qu'il savait, et qu'il était révolté. Non seulement que Martel et moi soyons unis par un lien, mais aussi que j'ai refusé de le reconnaître. « Comme si c'était possible avec lui !» murmurai-je à Sui. Je dis au revoir à mes animaux, en m'efforçant de transmettre à Martel que plusieurs repas et plusieurs nuits s'écouleraient avant que je revienne. Il se mit à ramper à mes pieds en se tortillant et en protestant que je devais l'emmener, que j'aurais besoin de lui. Il était désormais trop grand pour que je le prenne dans mes bras. Alors je m'assis par terre. Il s'installa sur mes genoux et je le serrai contre moi. Il était chaud et massif tout près de moi, bien réel. L'espace d'un instant, je sentis qu'il avait parfaitement raison, que j'aurais besoin de lui pour survivre à mon échec. Mais je me forçais à me rappeler qu'il serait ici et qu'il m'attendrait à mon retour, et je lui promis de lui consacrer alors plusieurs jours entiers. Je l'emmènerais pour une longue chasse, comme nous n'avions jamais eu le temps d'en faire jusque-là. « Tout de suite ? » fit-il. « Bientôt, » promis-je. Puis je remontai au château, me préparai des vêtements de rechange et quelques vivres. La scène qui eut lieu le lendemain matin était grandiose et théâtrale à souhait, mais elle n'avait guère de sens, à mon avis. À part moi, tous les candidats avaient l'air aux anges. Des huit qui devaient se mettre en route, j'étais le seul, semblait-il, à rester indifférent au spectacle des chevaux qui piaffaient et des huit litières fermées. Galen nous fit mettre en rang et nous banda les yeux sous les regards d'une bonne soixantaine de personnes, la plupart parents des étudiants, amis ou simples commères. Galen se fendit d'un dernier discours qui s'adressait apparemment à nous, mais qui reprenait ce que nous savions déjà. On allait nous emmener à divers endroits et nous y laisser à nous-mêmes, après quoi nous devions coopérer en nous servant de l'art pour retrouver le chemin de la forteresse. Si nous réussissions, nous formerions un clan magnifique au service du roi, essentiel à la dispersion des pirates rouges. Cette dernière assertion fit impression sur le public, car j'entendis des murmures tandis qu'on me conduisait à ma litière et qu'on m'y installait. Le jour et demi qui suivit fut pénible. La litière tanguait sans arrêt, et sans air pour me rafraîchir ni paysage pour me distraire, j'eus rapidement le cœur au bord des lèvres. L'homme qui guidait les chevaux avait juré le silence et tenait parole. Nous fîmes une brève halte le soir, on me donna un maigre repas composé de pain, de fromage et d'eau, puis on me rembarqua, et les cahots et le roulis reprirent de plus belle. Le lendemain, vers midi, la litière s'arrêta. Encore une fois, on m'aida sans un mot à en descendre, et je me retrouvai debout, tout ankylosé, les tempes martelées par la migraine et les yeux bandés, battus par un vent violent. Lorsque j'entendis le pas des chevaux s'éloigner, je supposai que j'étais arrivé à destination et décidai d'enlever mon bandeau. Galen l'avait solidement noué, et il me fallut un moment pour m'en débarrasser. Je me trouvais sur le flanc herbu d'une colline. Mon escorte était déjà loin et se dirigeait à vive allure vers une route en contrebas. Les herbes me montaient jusqu'aux genoux, la pointe jaunie par l'hiver, mais déjà verte à la base. J'aperçus d'autres buttes qui commençaient à virer au vert, leurs versants hérissés de rocs, des bosquets nichés à leurs pieds. Je haussai les épaules et tournai sur moi-même afin de m'orienter. La région était vallonnée, mais je perçus l'odeur de la mer et de la marée basse quelque part en direction de l'est. Ce paysage m'était curieusement familier, non pas le lieu précis où je me tenais, mais l'aspect général de la région. Opérant un demi-tour, je repérai à l'ouest la sentinelle. Impossible de me tromper sur son sommet bifide. Moins d'une année auparavant, j'avais recopié pour Gérepu une carte dont il avait choisi comme motif de bordure le dessin caractéristique de ce pic. Alors voyons, la mer était par là, la sentinelle de ce côté-ci. Avec une soudaine sensation de creux dans l'estomac, je sus où j'étais, pas très loin de Forge. Aussitôt, je jetai un coup d'œil inquiet sur la colline autour de moi, sur les bouquetaux et sur la route. Pas âme qui vive. Je tendis mon esprit, au bord de la panique, mais je ne perçus la présence que de quelques oiseaux, de petits gibiers et d'un cerf, qui leva la tête et flaira l'air, intrigué par mon contact. L'espace d'un instant, je fus rassuré. Puis, je me souvins que les forgisés que j'avais rencontrés autrefois étaient indétectables par le vif. Je descendis vers des rochers et m'abritai derrière eux, moins pour me protéger du vent, la journée annonçait l'arrivée prochaine du printemps, que pour m'adosser à du solide et ne plus avoir l'impression d'offrir une cible aussi parfaite qu'au sommet de la colline. Là, je m'efforçais de réfléchir posément à ce que j'allais faire. Galen nous avait recommandé de rester sur place, de méditer et de garder les sens ouverts en attendant son toucher. Rien ne démoralise tant que la certitude de l'échec. Je n'étais pas du tout convaincu qu'il essaierait de me contacter, et encore moins que j'en percevrais une claire impression. Par ailleurs, la région où j'avais été déposé ne paraissait pas sûre. Sans guère plus approfondir la question, je me levai, examinai à nouveau les alentours pour m'assurer que personne ne me guettait, puis me mis en route, guidé par l'odeur de la mer. Si je ne m'étais pas trompé, je devrais apercevoir l'île de l'Andouillé depuis la plage, et peut-être même, si le jour était assez clair, celle du canevas. L'une ou l'autre suffirait à m'indiquer à quelle distance je me trouvais de Forges. Tout en marchant, je me persuadais que je voulais seulement estimer le temps qu'il me faudrait pour rejoindre Castelserre à pied. Les forgisés ne constituaient plus une menace désormais, et il faudrait être bien sot pour croire le contraire. L'hiver avait dû les décimer, ou les affamer, et les réduire à un tel état de faiblesse qu'ils ne représentaient plus aucun danger. Je n'accordais nulle foi aux rumeurs qui couraient sur des forgisés organisés en bandes de coupe-jarrets et de brigands. Je n'avais pas peur. Je désirais savoir où j'étais, voilà tout. Si Galen avait vraiment l'intention de me contacter, le lieu importait peu. Il nous avait répété maintes et maintes fois que c'était sur la personne qu'il se repérait, pas sur sa situation géographique. Il me toucherait aussi bien sur la plage que sur la colline. En fin d'après-midi, je contemplais la mer du haut d'une falaise rocheuse. L'île de l'Andouillé était bien là, et plus loin, une brume sombre qui devait être canevas. J'étais au nord de Forges. La route côtière pour rentrer chez moi passait au milieu des ruines de la bourgade. C'était une idée qui ne laissait pas de m'inquiéter. Bon, et maintenant ? Le soir, de retour sur ma colline, je m'étais installé au fond d'une anfractuosité entre deux rochers. Autant attendre l'accueilleur. Malgré mes doutes, j'avais décidé de rester là où l'on m'avait déposé jusqu'à ce que le temps imparti pour un contact fût écoulé. Je mangeai du pain et du poisson séché, puis bus une gorgée d'eau parcimonieuse. J'avais un manteau dans mes affaires de rechange. Je m'en enveloppai en rejetant fermement toute idée de feu. Si petit fut-il, il serait aussi visible qu'un phare depuis la route de terre qui passait en contrebas. Rien n'est plus cruellement pénible, je crois, qu'une inquiétude que rien ne vient soulager. Je m'efforçais de méditer, de m'ouvrir à l'art de Galen, tout en tremblant de froid et en refusant de m'avouer ma peur. L'enfant en moi imaginait sans cesse de noires silhouettes dépenaillées, en train de ramper sans bruit vers moi, des forgisés qui allaient me tomber dessus et m'assassiner pour s'emparer de mon manteau et de mes vivres. En retournant à la colline, je m'étais procuré un bâton et je le tenais à deux mains, mais il ne m'inspirait guère confiance. Parfois, je m'endormais malgré ma terreur. Mais dans mes rêves, je voyais toujours Galen se réjouir de mon échec, tandis qu'un cercle de forgisés se refermait sur moi. Et je me réveillais alors en sursaut, et jetais des coups d'œil frénétiques autour de moi pour m'assurer que mes cauchemars étaient purement imaginaires. Je regardais le soleil se lever à travers les arbres, puis passais la matinée à somnoler par à-coup. Avec l'après-midi, me vint une sorte de paix, et je m'amusais à projeter mon esprit dans celui des animaux de la colline. Les souris et les oiseaux ne m'apparaissaient que comme de brillantes étincelles de faim. Les lapins, à peine davantage. Mais un renard brûlait d'envie de se trouver une compagne, et plus loin, un cerf s'arrachait le velours des bois, en les tapant contre un arbre avec la régularité d'un forgeron frappant sur son enclume. La soirée n'en finit pas, et la nuit tombant, je m'étonnais de constater combien il m'était difficile d'accepter de n'avoir rien senti, pas le moindre effleurement d'art. Galen ne m'avait pas appelé, ou alors je ne l'avais pas entendu. Je mangeais mon pain et mon poisson dans le noir, en me disant que c'était sans importance. Pendant quelque temps, j'essayais de me revigorer en me mettant en colère, mais mon désespoir formait une masse trop pâteuse et sombre pour se dissoudre à la flamme de la fureur. J'étais certain que Galen m'avait trompé, mais je ne serais jamais en mesure de le prouver, pas même à moi-même. Et la question demeurerait éternellement en suspens. Son mépris pour moi était-il justifié? Plongé dans l'obscurité complète, je m'adossai au rocher, mon bâton en travers des genoux, et résolu de dormir. Je fis des rêves confus et angoissants. Royal me dominait de toute sa taille, et j'étais redevenu un enfant endormi sur la paille. Il riait, un poignard à la main. Vérité haussait les épaules et me souriait d'un air d'excuse. Ambre se détournait de moi, déçue. Molly adressait un sourire à Jade par-dessus mon épaule, oublieuse de ma présence. Burick me saisissait par le devant de ma chemise et me secouait comme un prunier en m'intimant de me conduire comme un homme, pas comme une bête. Mais je restais couché sur un lit de paille recouvert d'une vieille chemise et je mâchonnais un os. La viande était très bonne et je ne pensais à rien d'autre. Je savourais un confort douillet lorsque quelqu'un ouvrit une des portes des écuries et la laissa entrebâillée. Un méchant petit courant d'air traversa le bâtiment pour venir me chatouiller et je levai les yeux en grognant. Je flairai Burick et une odeur de bière. Il passa lentement devant moi dans le noir en murmurant
« Tout va bien, Martel. »
Et je laissai mon museau retomber, tandis qu'il gravissait les marches. Il y eut un cri soudain, et des hommes dégringolèrent l'escalier en se battant. Je me dressai d'un bond, mi-grondant, mi-aboyant, et ils faillirent tomber sur moi. Un coup de pied essaya de m'atteindre, et je saisis la jambe du propriétaire entre mes dents et refermai les mâchoires. J'avais attrapé davantage de bottes et de chausses que de chair, mais l'homme émit un sifflement de colère et de douleur, et il se jeta sur moi. Un poignard s'enfonça dans mon flanc. Je resserrai ma prise en grondant. D'autres chiens s'étaient réveillés et aboyaient. Les chevaux tapaient des sabots dans leur box. « Maître, maître !» criai-je. Je sentis qu'il était avec moi, mais il ne vint pas. L'inconnu me rouait de coups de pied, mais je refusais de le lâcher. Burick était étendu dans la paille et je flairais l'odeur de son sang. Il ne bougeait plus. Je grondais. J'entendais la vieille renarde qui se jetait contre la porte, à l'étage au-dessus, dans l'espoir vain de rejoindre son maître. Le poignard plongea et plongea encore dans ma chair. J'appelai une dernière fois mon maître au secours. Puis, il me fut impossible de tenir prise plus longtemps. D'une ruade, l'homme se débarrassa de moi et me projeta contre la cloison d'un box. Le sang qui me coulait dans la bouche et les narines m'étouffait. Une course précipitée. Douleur et obscurité. Je me traînais jusqu'à Burick. Lui soulevait la main du bout du museau. Il ne réagissait pas. Des voix, des lumières qui s'approchaient, s'approchaient, s'approchaient. Je me réveillais sur le versant d'une colline sombre. Les doigts serrés si fort autour de mon bâton que j'en avais les mains engourdies. Pas un instant je ne crus avoir rêvé. Je sentais toujours la lame entre mes côtes et le sang dans ma bouche. Refrain d'une chanson d'épouvante, les souvenirs revenaient sans cesse, le courant d'air glacé, le poignard, la botte, le goût du sang de mon adversaire et le goût du mien sur ma langue. Je m'efforçais de comprendre ce qu'avait vu Martel. Quelqu'un attendait Burick en haut de l'escalier, armé d'un poignard, et Burick était tombé. Martel avait flairé le sang. Je me levai et rassemblai mes affaires. La chaude petite présence de Martel était faible et ténue dans mon esprit. Faible, mais bien là. Je tendis prudemment ma conscience, mais m'arrêtai en percevant ce qui lui en coûtait de me répondre. « Calme, reste tranquille. J'arrive. » J'avais les jambes qui tremblaient de froid, mais le dos poisseux de sueur. Sans tergiverser sur la conduite à tenir, je descendis le coteau jusqu'à la route de terre. C'était une petite voie de commerce, une piste pour les colporteurs, et je savais qu'en la suivant, je finirais par tomber sur la route de la côte. Alors je prendrais la direction de Castelserre, et si Edda me souriait, j'arriverais à temps pour secourir Martel et Burick. Je marchais à grands pas en me retenant de courir. Un pas régulier me mènerait plus loin et plus vite qu'une course éperdue dans le noir. La nuit était claire, le chemin droit. Il me vint à l'esprit que j'étais en train de gâcher ma dernière chance de prouver mon aptitude à l'art. Tout ce que j'y avais investi, mon temps, mes efforts, mes souffrances, tout cela était perdu. Mais il n'était pas question de rester tranquillement assis en attendant encore toute une journée que Galen essaye de me contacter. Pour m'ouvrir à un hypothétique toucher d'art, j'aurais été obligé de couper le fil fragile qui me reliait à Martel. Ça, jamais. Tout bien pesé, l'art était bien moins important que Martel et Burick. Pourquoi s'en est-on pris à Burick, m'étonnais-je. Qui pouvait le détester au point de lui tendre un piège? Et à sa porte qui plus est? Avec la même minutie que si je faisais un rapport à Imbre, j'entrepris de rassembler les faits. L'agresseur était quelqu'un qui le connaissait assez pour savoir où il habitait. Cela éliminait toute personne que Burick aurait pu insulter par accident dans une taverne de Bourg-de-Castelserre. Il avait apporté un poignard, il ne voulait donc pas seulement lui flanquer une correction. Le poignard était tranchant, et l'homme savait s'en servir. Le souvenir des coups me fit grimacer. Tels étaient donc les faits. Je me mis à bâtir de prudentes hypothèses à partir de là. Quelqu'un qui connaissait les habitudes de Burick avait de sérieux griefs contre lui, suffisamment pour vouloir le tuer. Je ralentis soudain le pas. Pourquoi Martel n'avait-il pas senti la présence de l'homme en haut de l'escalier? Pourquoi Renarde n'avait-elle pas aboyé derrière la porte? Si l'homme avait pu passer sans se faire remarquer sur le propre territoire des chiens, c'est qu'il était formé à œuvrer en toute discrétion. Galen. Non. J'avais envie que ce soit Galen, c'est tout. Je repoussais fermement cette conclusion. Physiquement, Galen ne pouvait pas se mesurer à Burick, et il le savait. Même avec un poignard, dans le noir, et même en prenant Burick par surprise, et à moitié ivre, non. Galen en avait peut-être eu l'idée, mais il ne serait jamais passé aux actes. Pas en personne, en tout cas. Aurait-il pu en charger un homme de main? Je réfléchis. Je n'en savais rien. J'essayais de pousser la réflexion un peu plus loin. Burick avait un tempérament impatient. Galen était son ennemi le plus récent, mais pas le seul. Je passais en revue les faits à plusieurs reprises, en m'efforçant de parvenir à une conclusion indiscutable, mais les éléments étaient insuffisants. Je longeais un ruisseau où je me désaltérais sans excès. Après quoi, je repris ma route. Les bois de part et d'autre s'épaississaient et les arbres dissimulaient presque entièrement la lune. Mais je refusais de rebrousser chemin. Enfin, la piste que je suivais se fondit dans la route côtière comme une rivière qui se jette dans un fleuve. Je pris vers le sud sur la large voie à laquelle la lune mettait des reflets d'argent. Je marchais toute la nuit sans cesser de réfléchir. Lorsque les premières lueurs de l'aube rendirent quelques couleurs au paysage, j'étais exténué. Mais rien n'aurait pu me contraindre à m'arrêter. Mon inquiétude était un fardeau dont je ne pouvais me délester. Je m'accrochais au mince fil tiède qui m'indiquait que Martel vivait toujours, et je me rongeais les sangs pour Burick. Je n'avais aucun moyen de connaître la gravité de ses blessures. Martel avait senti l'odeur de son sang. Le poignard avait dû le toucher au moins une fois. Et la chute dans l'escalier. Je m'efforçais de mettre mes angoisses de côté. Je n'avais jamais imaginé que Burick pût être blessé de cette façon. Ni ce que j'en ressentirais. L'émotion qui m'étreignait échappait à toute description. C'était comme une sensation de creux, de vide et de lassitude. Je mangeais un peu en marchant et remplis mon outre dans un ruisseau. En milieu de matinée, le ciel se couvrit et il se mit à pleuvoir. Mais les nuages se déchirèrent subitement en début d'après-midi. J'avançais toujours. J'avais pensé trouver du passage sur la route côtière, mais je ne vis pas un chat. En fin de journée, la piste se rapprocha des falaises, et j'aperçus, en contrebas, de l'autre côté d'une baie, ce qui restait de forge. Il y régnait un calme effrayant. Nulle fumée ne montait des cheminées. Nul bateau ne mouillait dans le port. Mon chemin m'obligeait à traverser le village. Cette idée ne me souriait guère, mais le fil tiède de la vie de Martel m'obligeait à continuer. Le frottement d'un pied sur la pierre me fit lever la tête, et seuls les réflexes acquis pendant les exercices de Hod me sauvèrent la vie. Je pivotais sur moi-même, en faisant tournoyer mon bâton autour de moi, en un cercle défensif. Il s'arrêta, en brisant la mâchoire de l'homme qui se trouvait derrière moi. Ses compères reculèrent. Ils étaient trois, tous forgisés, aussi vite que des pierres. Celui que j'avais frappé se roulait par terre en hurlant. Mais personne ne lui prêtait attention, à part moi. Je lui assénai rapidement un nouveau coup dans le dos, et il redoubla de cris, convulsé de douleur. Malgré le peu de choix que j'avais, Mon geste m'étonna. Il était certes prudent de veiller à ce qu'un adversaire mis hors de combat le demeure, mais jamais je n'aurais frappé un chien comme j'avais frappé cet homme. Cependant, se battre contre des forgisés me donnait l'impression de lutter contre des fantômes. Je ne sentais aucune présence. Je ne percevais pas la douleur que j'avais infligée aux blessés. Aucun écho de colère ni de peur ne m'effleurait l'esprit. C'était comme quand on claque une porte. De la violence, mais pas de victime. Je le cognai une dernière fois afin d'être sûr qu'il n'essaierait pas de m'attraper au vol. Puis je sautai par-dessus pour gagner l'espace dégagé de la route. Je fis danser mon bâton autour de moi pour maintenir les autres à distance. Ils étaient dépenaillés et apparemment affamés, mais j'avais le sentiment qu'ils me rattraperaient sans mal si je cherchais à m'enfuir. J'étais fatigué, et ils étaient comme des loups au ventre vide. Ils me poursuivraient jusqu'à ce que je m'effondre d'épuisement. L'un d'eux s'approcha un peu trop, et je lui décochai un coup en oblique sur le poignet. Il laissa tomber son couteau à écailles rouillées et serra sa main contre son cœur en poussant un cri aigu. Cette fois encore, les deux autres ne se préoccupèrent nullement du blessé. Je reculai en faisant tournoyer mon arme. « Qu'est-ce que vous voulez ?» leur demandai-je.
« Qu'est-ce que tu possèdes ?»
rétorqua l'un d'eux. Il avait la voix rauque et hésitante, comme s'il ne s'en était plus servi depuis longtemps, et le ton monocorde. Il se déplaça lentement autour de moi, en un grand cercle qui m'obligeait à tourner sur moi-même. « Des morts qui parlent, » me dis-je, et je ne pus empêcher cette pensée de se répercuter longuement dans ma tête.
« Rien !»
répondis-je enfin, le souffle court, avec un coup d'estoc à l'intention d'un des hommes qui cherchait à se rapprocher.
« Je n'ai rien qui vous intéresse. Ni argent, ni vivre, rien. J'ai perdu toutes mes affaires plus haut sur la route. »«
Rien ?»
répéta l'autre, et je me rendis compte soudain que cet être avait été une femme autrefois. Aujourd'hui, ce n'était plus qu'une marionnette vide et malveillante, dans les yeux de laquelle une lueur de cupidité s'alluma quand elle s'écria
« Manteau ! Je veux ton manteau !»
Elle parut se réjouir d'avoir formulé cette pensée, et je profitai de cet instant de distraction pour la frapper au tibia. Elle regarda sa jambe d'un air perplexe, puis se remit à s'approcher en claudiquant.
« Manteau !»
dit l'autre à son tour. Un instant, ils se dévisagèrent avec des yeux furieux, soudain vaguement conscients de leur rivalité.
« Moi, à moi !»
ajouta l'homme.
« Non, je te tue !»
énonça-t-elle calmement.
« Je te tue aussi !»
me rappela-t-elle, et elle revint dans ma direction. Je lui balançai un coup de bâton, mais elle sauta en arrière, tout en essayant de s'en saisir. Je fis demi-tour, juste à temps pour frapper l'homme dont j'avais déjà mis le poignet à mal, puis le dépassai d'un bond et m'enfuis sur la route. Je courais maladroitement, mon arme dans une main, de l'autre essayant de dégrafer la tache de mon manteau. J'y arrivai enfin, et je laissai mon vêtement tomber derrière moi sans cesser de courir. La faiblesse de mes jambes m'avertit que c'était là ma dernière manœuvre. Quelques instants plus tard, mes poursuivants durent trouver mon manteau, car je les entendis se le disputer avec des cris et des hurlements de colère. Je fis le vœu que cela suffise à les occuper tous les quatre et continuai de courir. La route faisait un coude, guère prononcé, mais assez pour me dissimuler à leur regard. Néanmoins, je persistai à courir, puis à trotter aussi longtemps que je le pus avant d'oser jeter un coup d'œil en arrière. La route était déserte. Je me forçai à avancer encore, puis je quittai la piste dès que j'aperçus un endroit où me cacher. C'était un roncier excessivement rébarbatif, au cœur duquel je me frayai un chemin, non sans mal. Exténué, tremblant, je m'accroupis au milieu du buisson épineux et tendis l'oreille pour capter d'éventuels bruits de poursuite, tout en buvant de petites gorgées d'eau à ma gourde et en m'efforçant de me calmer. Ce retard était très malvenu, car il me fallait impérativement retourner à Castelserre, mais je n'osais pas me montrer. Encore aujourd'hui, il me paraît incroyable que j'aie pu m'endormir dans ces conditions. C'est pourtant ce qui m'arriva. Je me réveillai peu à peu. Hébété, j'eus d'abord l'impression d'avoir été victime d'une grave blessure ou d'une longue maladie et d'être seulement en train de m'en remettre. J'avais les yeux chassieux, la langue pâteuse et un goût âcre dans la bouche. Avec effort, j'écarquillai les paupières et regardai mon environnement d'un œil égaré. La lumière baissait et des nuages cachaient la lune. J'étais dans un tel état de fatigue que je m'étais assoupi appuyé à une multitude d'épines aiguës. Je m'extirpais du roncier avec beaucoup de difficulté, en y laissant des morceaux de vêtements, des cheveux et des bouts de peau. J'émergeais de ma cachette avec la prudence d'un animal pourchassé. Je projetais mon esprit le plus loin possible, mais je reniflais également l'air et scrutais soigneusement les alentours. Le vif ne me permettrait de repérer aucun forgisé, mais j'espérais que s'il y en avait dans le coin, les animaux sauvages réagiraient à leur présence. Cependant, tout était tranquille. Je m'aventurais sur la route avec circonspection, mais elle était déserte. Après avoir jeté un coup d'œil au ciel, je pris la direction de Forge en marchant au bord de la piste, là où les ombres étaient le plus épaisses. J'essayais de me déplacer à la fois vite et en silence, sans y parvenir aussi bien que je l'aurais souhaité. Il n'y avait plus rien dans mon esprit que de la vigilance et la nécessité de rentrer à Castelserre. Le fil vital de Martel n'était plus qu'une fibrille à peine perceptible. La seule émotion encore vivace en moi, je crois, était la peur qui m'obligeait à jeter des coups d'œil par-dessus mon épaule et à examiner attentivement les fourrés de part et d'autre de la route. Il faisait nuit quand j'arrivais sur la colline qui dominait Forge. Je restai un moment à observer le village, en quête de signes de vie, puis, non sans réticence, je me remis en marche. Le vent s'était levé, et la lune jouait à cache-cache avec les nuages. Elle me dispensait par intermittence une lumière traîtresse, à la fois révélatrice et trompeuse, qui faisait bouger les ombres dans les recoins des maisons abandonnées et créait de soudains reflets, comme des scintillements de couteaux dans les flaques des rues. Mais nul ne déambulait plus dans Forge. Le port était vide de bateaux. Aucune fumée ne s'élevait des cheminées. Les habitants indemnes avaient quitté le village peu de temps après l'attaque, et les forgisés aussi, à l'évidence, une fois taries les sources de nourriture et de confort. Rien n'avait été rebâti après le raid, et une longue saison de tempête et de marée hivernale avait presque achevé ce qu'avaient commencé les pirates rouges. Seul le port conservait un aspect quasi normal, si l'on exceptait les cales désertes. Les digues s'incurvaient toujours autour de la baie, telles des mains en coupe, protégeant les quais, mais il ne restait plus rien à protéger. Je traversais les vestiges désolés de Forge. Des picotements me parcouraient la peau lorsque, à pas de loup, je passais devant des portes bâillantes, accrochées de guingois à des chambranles défoncées et à demi calcinées. C'est avec soulagement que je m'éloignais des maisons vides aux relents moisis pour m'avancer sur les quais qui surplombaient la mer. La route y menait tout droit avant de faire le tour de la baie. Un épaulement de pierre dégrossie essayait de défendre la chaussée contre l'avidité des vagues, mais un hiver de marée et de tempête sans intervention de l'homme l'avait sérieusement abîmé. Des moellons s'en détachaient, et les bois flottants dont la mer s'était servie comme bélier jonchaient la plage en contrebas. Autrefois, des charrois descendaient la route pour apporter leur chargement de lingots de fer aux navires qui mouillaient au port. En longeant la digue, je constatais que, sans entretien, l'ouvrage qui paraissait si solide du haut de la colline ne résisterait en réalité qu'un ou deux hivers encore avant d'être balayé par la mer. Dans le ciel, les nuages galopaient devant les étoiles. Les éclats intermittents de la lune m'offraient de brefs aperçus du port et le bruissement des vagues m'évoquait le souffle d'un géant rassasié. Cette nuit avait quelque chose d'onirique et lorsque je regardais la mer, le spectre d'un navire rouge coupa le reflet de la lune en pénétrant dans le port de Forge. Il avait la coque longue, élancée, les mâts exempts de toile, et il s'avançait sans bruit entre les digues. Le rouge de sa coque et de sa proue luisait comme du sang frais, comme s'il taillait sa route dans des ruisseaux sanglants et non dans de l'eau salée. Nul cri d'alarme ne s'éleva de la ville morte derrière moi. Je restais sans bouger comme un ahuri, bien dessiné sur la digue, tremblant devant cette apparition, jusqu'au moment où le craquement et l'éclaboussement argenté des rames rendirent sa réalité au navire rouge. Je me jetai alors à plat ventre sur la chaussée, puis m'écartai en rampant de sa surface lisse pour m'abriter parmi les rochers et les morceaux de bois qui s'entassaient contre la digue. Terrifié, c'est à peine si j'osais respirer. Le sang me martelait la tête et l'air fuyait mes poumons. Je dus courber la tête entre mes bras et fermer les yeux pour reprendre mon sang-froid. À ce moment, les petits bruits que même le plus discret des vaisseaux ne peut s'empêcher de produire me parvinrent, faibles, mais distincts. Un raclement de gorge, un aviron qui cogne au blocage, un objet lourd qui tombe sur le quai. J'attendis le cri ou l'ordre qui trahirait ma découverte, mais rien ne vint. Je relevai prudemment la tête et observait le port à travers les racines blanchies d'un arbre rejeté par les vagues. Tout était immobile, à part le navire qui s'approchait au rythme de ses bancs de nage. Les rames montaient et descendaient à l'unisson, dans un silence presque complet. Bientôt, j'entendis les hommes se parler dans une langue proche de la nôtre, mais avec un accent si rude que je les comprenais à peine. L'un d'eux sauta par-dessus bord avec une ligne et gagna la plage en pataugeant. Il amarra le navire à deux longueurs de bateau tout juste de ma cachette. Deux autres marins bondirent à leur tour, poignards à la main, et escaladèrent la digue, après quoi chacun partit de son côté en courant sur la route pour se poster en sentinelle. L'un d'eux s'installa juste au-dessus de moi, et je me fis tout petit en me contraignant à l'immobilité. Je me raccrochai à Martel comme un enfant s'agrippe à son jouet préféré pour se protéger des cauchemars. Il fallait que je le rejoigne. Par conséquent, je ne devais pas me faire prendre. Me savoir tenu de réaliser la première partie de la proposition rendait miraculeusement la seconde moins invraisemblable. Des hommes descendirent rapidement du navire. Leur manière d'agir indiquait qu'ils étaient en terre inconnue, et je compris pourquoi ils s'étaient amarrés à cet endroit précis en les voyant décharger des barriques vides. Elles roulèrent avec des échos caverneux sur la chaussée, et je me rappelais être passé devant un puits en descendant au port. La portion de mon esprit qui ressortissait à l'enseignement d'Imbre nota qu'il connaissait bien Forge pour avoir mouillé presque exactement en face du puits. Ce n'était pas la première fois que ce navire s'y arrêtait pour faire de l'eau. « Empoisonne le puits », me suggéra l'esprit d'Imbre. Mais je n'avais ni les ingrédients nécessaires, ni le courage de faire autre chose que rester caché. D'autres pirates avaient quitté le bord pour se dérouiller les jambes. Je surpris une dispute entre une femme et un homme. Ils voulaient l'autorisation d'allumer un feu avec des morceaux de bois de la plage afin de faire cuire de la viande. Et elle refusait en disant qu'il n'était pas assez loin et qu'un feu serait trop visible. Ils avaient donc récemment effectué un raid non loin de Forge pour se procurer de la viande fraîche. Elle donna sa permission pour quelque chose que je ne compris pas jusqu'à ce que je voie débarquer deux tonnelets pleins. Un homme descendit à terre avec un jambon entier sur l'épaule qui fit un bruit charnu lorsqu'il le laissa tomber sur une des barriques dressées. Il sortit un couteau et entreprit d'en couper des tranches tandis qu'un autre homme mettait un tonnelet en perce. Manifestement, il n'avait pas l'intention de lever le camp tout de suite. Et s'il se ravisait et allumait un feu, ou bien s'il restait jusqu'à l'aube, la pénombre de l'entrelacs de bois où j'étais tapis serait insuffisant pour me dissimuler. Sur ces réflexions, je sortis de ma cachette et me mis à ramper au milieu des nids de chic, des tas d'algues entortillées, sur le sable et le gravier, sous les bouts de bois et entre les pierres. Je suis prêt à jurer m'être empêtré dans toutes les racines que je rencontrais et heurté à tous les blocs de rochers déplacés par la mer. La marée avait tourné, les vagues s'écrasaient bruyamment sur les moellons, le vent chassait les embruns et je ne tardais pas à me retrouver trempé. Je m'efforçais de synchroniser mes mouvements avec les bruits des vagues qui déferlaient afin d'y noyer les miens. Les rochers étaient hérissés de bernacles et le sable emplissait les entailles qu'elles me faisaient aux mains et aux genoux. Mon bâton se transforma en un fardeau d'un poids extraordinaire, mais je refusais d'abandonner mon unique arme. Longtemps après que les pirates furent hors de portée de vue et d'oreille, je continuais à me traîner au sol et à me pelotonner derrière pierres et racines. Enfin, je me risquais à remonter sur la route et je la traversais à plat ventre. Une fois dans l'ombre d'un entrepôt à la charpente à demi affaissée, je me redressais, me collais au mur et scrutais les environs. Tout était silencieux. Je m'enhardis à faire un pas, ou deux, sur la route. Le navire et les sentinelles restaient invisibles. Peut-être ne pouvait-on pas me voir non plus dans ce cas. Je pris une profonde inspiration pour me calmer, puis me projetai vers Martel, un peu comme on se tâte les poches pour s'assurer qu'on n'a pas perdu son argent. Je le trouvais, mais son esprit était vague et muet, immobile comme un lac. « J'arrive. » murmurai-je, craignant de le réveiller. Et je me remis en route. Sous le vent incessant, mes vêtements imprégnés d'eau saline collaient à la peau et l'irritaient. J'avais faim, froid et envie de dormir. Mes chaussures mouillées étaient dans un état lamentable. Mais je n'imaginais pas une seconde de faire halte. Je trottais comme un loup, les yeux toujours en alerte, les oreilles attentives au moindre bruit de poursuite. Soudain, devant moi, dans l'obscurité de la route apparurent deux hommes. deux devant, et, je me retournai brusquement, un troisième derrière. Le fracas des vagues avait couvert leurs pas, et je les distinguais mal dans la lumière capricieuse de la lune, tandis qu'ils réduisaient la distance qui nous séparait. Je m'adossai au mur d'un entrepôt, soupesai mon bâton, et attendis. Je les regardais s'approcher, muets et furtifs, et je m'étonnais. Pourquoi ne lançaient-ils pas l'alarme? Pourquoi l'équipage entier ne venait-il pas assister à ma capture? Mais ces hommes s'observaient mutuellement autant qu'ils me surveillaient, moi. Ils ne chassaient pas en bande, mais chacun avec l'espoir que les autres trouveraient la mort en me tuant et lui laisseraient la prise. C'étaient des forgisés, pas des pirates. Une terreur glacée m'envahit. Le moindre écho d'une échauffourée attirerait immanquablement les hommes du bateau. Par conséquent, si les forgisés ne me réglaient pas mon compte, les pirates s'en chargeraient. Mais quand tous les chemins mènent à la mort, aucun n'est préférable à l'autre. Je prendrai les événements tels qu'ils se présenteraient. Mes assaillants étaient trois et l'un d'eux avait un couteau. Mais moi, j'avais un bâton et j'étais entraîné à son maniement. Ils étaient maigres, dépenaillés et ils avaient au moins aussi faim et froid que moi. L'un des trois était, me sembla-t-il, la femme de la veille. Je supposais qu'ils étaient au courant de la présence des pirates et qu'ils les redoutaient autant que moi. Mais je me refusais à me perdre en conjectures sur le désespoir qui les poussait à m'attaquer malgré tout. Une question me vint d'ailleurs aussitôt à l'esprit. Les forgisés étaient-ils capables de désespoir ou d'une quelconque émotion? Ils étaient peut-être trop hébétés pour avoir conscience du danger. Soudain, tout le savoir secret d'Imbre, toutes les stratégies à la brutale élégance de Hod pour faire face à deux adversaires ou plus, tout cela se perdit au vent. Car, alors que les deux premiers assaillants arrivaient à ma portée, je sentis décliner le petit point de chaleur qui était Martel. « Martel !» chuchotai-je, supplique éperdu pour qu'il ne me quitte pas. Je crus voir un bout de queue frémir dans un ultime effort pour me faire fête. Puis le fil se rompit, et l'étincelle disparut. J'étais seul. Un noir masqueré de force jaillit en moi comme un accès de folie. Je fis un pas en avant, enfonçai violemment l'extrémité de mon bâton dans le visage d'un des hommes, ramenai vivement l'arme à moi et la balançai dans la mâchoire de la femme. La violence du coup lui déchira la moitié inférieure de la figure. Je continuai à la frapper tandis qu'elle s'effondrait et j'avais l'impression de taper sur un requin pris dans une nasse avec une matraque à poisson. Le troisième du groupe se précipita sur moi, se croyant, j'imagine, trop près de moi pour que je puisse employer mon bâton. Peu m'importait. Je lâchai mon arme et me colletai avec lui. Il était décharné et il dégageait une odeur pestilentielle. D'une poussée brutale, je le fis tomber sur le dos et l'air qui jaillit de ses poumons puait la charogne. J'entrepris de le mettre en pièces à l'aide de mes mains et de mes dents seules, devenu soudain aussi bestial que lui. Lui et ses acolytes m'avaient retenu alors que Martel se mourait. Je n'avais plus qu'une envie, le faire souffrir le plus possible. Il ne se laissa pas faire. Je lui raclai la face sur le pavage de la route, lui enfonçai un pouce dans l'œil, il me planta les dents dans le poignet et m'ensanglanta la joue à coups d'ongles. Quand enfin il cessa de se débattre entre mes mains qui l'étranglaient, je le traînai sur la digue et jetai son cadavre au rocher. Ensuite, je restai sur place, pantelant, les poings toujours serrés. Je lançai un regard plein de fureur en direction du campement des pirates pour les mettre au défi de s'approcher. Mais rien ne vint troubler la nuit, sinon le bruit continu des vagues et du vent, et le léger gargouillis de la femme en train d'agoniser. Ou bien les pirates n'avaient rien entendu, ou bien ils tenaient trop à ne pas se faire remarquer pour s'intéresser à quelques échos nocturnes. Debout dans le vent, j'attendis que quelqu'un vienne, poussé par la curiosité, et me tue, mais rien ne bougeait. Une impression de vide m'envahit, et ma démence s'effaça. Tant de morts au cours de cette seule nuit, et sans guère de sens, sauf pour moi. Je déposai les deux autres cadavres au sommet de la digue qui s'effritait, en laissant le soin aux vagues et aux mouettes de les faire disparaître, puis je m'éloignai. Je n'avais rien perçu en les tuant, ni peur, ni colère, ni douleur, ni même désespoir. Ce n'étaient que des choses inanimées. Et tandis que je reprenais ma longue marche pour regagner Castelserre, je m'aperçus que je ne ressentais rien non plus au fond de moi-même. Peut-être, pensais-je, que la forgisation est contagieuse, et que je l'ai attrapé. Mais j'eus beau faire, cela m'était égal. Il ne me reste guère de souvenirs de mon trajet, Je marchais et marchais, glacé, exténué, affamé. Je ne rencontrais pas d'autres forgisés. Et les voyageurs que j'aperçus sur la route ne tenaient pas plus que moi à parler à un inconnu. Je n'avais qu'une idée. Rentrer à Castelserre. Retrouver Burick. Je parvins à destination 2 jours après le début de la fête du printemps. Quand les gardes voulurent m'arrêter à l'entrée du château, je les regardai dans les yeux.
« C'est le Fitz ?»
s'exclama l'un d'eux avec un hoquet de surprise.
« On te disait mort ?»«
La ferme !»
aboya l'autre. C'était Gage, que je connaissais depuis longtemps, et il ajouta rapidement.
« Burick a été blessé. Il est à l'infirmerie, mon garçon. »
Je hochai la tête et franchis les portes. De toutes mes années à Castelserre, je n'avais jamais mis les pieds à l'infirmerie. C'était Burick, et lui seul, qui avait toujours soigné mes maladies et mes bobos d'enfant. Mais je savais où elle se trouvait. Je traversais la forteresse, aveugle au groupe de fêtards, grands ou petits, et soudain, j'eus l'impression d'avoir à nouveau 6 ans et d'arriver pour la première fois à Castelserre. J'avais parcouru la longue route depuis Œil de Lune, accroché à la ceinture de Burick, alors qu'il avait une jambe ouverte et pensait à la diable. Mais pas une fois, il ne m'avait transféré sur le cheval d'un autre, ni confié à ses compagnons de route. Je me frayais un chemin parmi la foule des bambocheurs avec leurs carillons, leurs fleurs et leurs friandises, et je pénétrais dans la citadelle intérieure. Derrière les casernements se dressait un bâtiment en pierre blanchie à la chaux. Il n'y avait pas âme qui vive à l'entrée, et je traversais sans encombre le vestibule pour accéder à la salle principale. Des herbes fraîches avaient été répandues par terre, et les grandes fenêtres laissaient entrer un flot d'air et de lumière printanier. Néanmoins, j'eus une sensation de confinement et d'insalubrité. Burick n'était pas à sa place ici. Tous les lits étaient vides à part un. Aucun soldat ne restait alité pendant la fête du printemps, sauf cas de force majeure. Burick était couché sur un étroit lit de camp éclaboussé de soleil. Jamais encore je ne l'avais vu dans une telle immobilité. Il avait repoussé ses couvertures de côté, et des bandages lui emmaillotaient le torse. Je m'approchai sans bruit, et m'assis par terre à côté de lui. Il ne bougeait pas, mais je percevais sa présence et ses pansements s'élevaient et s'abaissaient lentement au rythme de sa respiration. Je lui pris la main.
« Fitz !»
dit-il sans ouvrir les yeux, et ses doigts se crispèrent sur les miens. « Oui ?»«
Tu es revenu. Tu es vivant. »
Je suis rentré le plus vite possible. Oh, Burick, j'avais peur que tu sois mort.
Moi, je te croyais mort. Tous les autres sont de retour depuis plusieurs jours.
Il reprit son souffle avec difficulté.
Naturellement, ce corneau leur avait laissé des chevaux à tous.
Non, fis-je sans lui lâcher la main. C'est moi le corneau, tu sais bien.
Excuse-moi.
Il ouvrit les yeux. Le gauche était injecté de sang. Il essaya de sourire, et je vis alors que toute la partie gauche de son visage était huméfiée.
« Eh bien, » dit-il, « nous faisons une belle paire, tous les deux. Devrait te passer de la pommade sur la joue, ça s'infecte. On dirait qu'un animal t'a griffé. »«
Déforgisé. » Je ne pus pas en dire davantage. J'ajoutais seulement à mi-voix. « Il m'a fait déposer au-dessus de Forge, Burick. » Un spasme de fureur déforma ses traits.
« Il a refusé de me dire où tu étais. Lui comme tout le monde, d'ailleurs. J'ai même envoyé quelqu'un chez Vérité pour lui demander d'obliger Galen à nous avouer ce qu'il avait fait de toi. Mais je n'ai pas eu de réponse. Je devrais le tuer. »«
Laisse tomber, » répondis-je. Et j'étais sincère. « Je suis de retour, et bien vivant. J'ai raté l'épreuve, mais je ne suis pas mort. Et comme tu me l'as dit toi-même, il y a d'autres choses dans la vie. » Burick se déplaça légèrement, mais visiblement, sa nouvelle position ne le soulagea guère.
« Ah bon ? Il va être déçu. »
Il laissa échapper un sourire haché.
« Je me suis fait attaquer. Le gars avait un poignard. Je ne sais pas qui c'est. »«
C'est grave ? » ?»«
Assez pour quelqu'un de mon âge. Naturellement, un jeune brocard comme toi s'est broré un bon coup, et on n'en parlerait plus. » Heureusement, il n'a fait mouche qu'une fois avec sa lame. mais je suis tombé. Et je me suis cogné la tête. Je suis resté dans les pommes 2 jours entiers. Et puis Fitz, ton chien. C'est idiot. Il avait aucune raison de le faire, mais il a tué ton chien.
Je sais.
Il est mort rapidement.
Dit Burick, en guise de consolation. Son mensonge me hérissa. Il est mort héroïquement, corrigeai-je. Sinon le poignard t'aurait atteint plus d'une fois.
Burick se figea. Tu étais là,
fit-il enfin. Ce n'était pas une question, et le sens de sa phrase était sans équivoque. Oui, m'entendis-je répondre simplement.
Tu étais avec le chien, cette nuit-là, au lieu d'essayer de pratiquer l'art.
L'indignation lui faisait hausser le ton. Burick, ce n'est pas là. Il retira sa main de la mienne, et il se détourna de moi.
Va-t'en.
Burick, Martel n'avait rien à y voir. Je n'ai pas de don pour l'art, c'est tout. Alors laisse-moi ce que je possède. Laisse-moi être ce que je suis. Je ne m'en sers pas pour faire du mal. Même sans ça, je suis bon pour les animaux. Tu m'as élevé comme ça. Si je m'en sers, je peux...
Ne t'approche plus de mes écuries. Et ne t'approche plus de moi.
Il se retourna vers moi. Et à ma stupéfaction, je vis une larme rouler sur sa joue hâlée.
Tu as échoué. Non, Fitz. C'est moi qui ai échoué. J'ai été trop tendre. Au premier signe du vif, j'aurais dû te rosser sans pitié pour te l'extirper.
Élève-le bien, m'avait dit Chevalerie. C'est le dernier ordre qu'il m'avait donné.
Et je l'ai trahi. Et je t'ai trahi, toi aussi. Si tu ne t'étais pas frotté au vif, Fitz, tu aurais pu apprendre l'art. Galen aurait pu te l'enseigner. Pas étonnant qu'il t'ait envoyé à Forge.
Il se tut un instant.
Bâtard ou pas, tu aurais pu être le digne fils de Chevalerie, mais tu as tout gâché. Et pourquoi? Pour un chien? Je sais ce que peut représenter un chien dans la vie d'un homme, mais on ne fout pas son existence en l'air pour...
Ce n'était pas qu'un chien, l'interrompis-je presque violemment. C'était Martel, c'était mon ami, et il n'était pas seul en cause. Si j'ai renoncé à attendre, si je suis revenu, c'est pour toi. Je croyais que tu pouvais avoir besoin de moi. Martel est mort il y a des jours et je le savais. Mais je suis revenu pour toi, au cas où je pourrais t'aider. Il demeura si longtemps sans rien dire, que je crus qu'il refusait de me répondre.
Ce n'était pas nécessaire,
fit-il enfin à mi-voix.
Je m'occupe moi-même de mes affaires.
Et d'un ton hargneux.
Tu le sais, je l'ai toujours fait.
Oui. Et tu t'es toujours occupé de moi.
Pour le bien que ça nous a fait,
dit-il d'une voix lente. Regarde ce que tu es devenu par ma faute. Aujourd'hui, tu n'es plus que...
Non, ça ne sert à rien. Va-t'en. Va-t'en.
À nouveau, il me tourna le dos et je sentis quelque chose qui s'enfuyait de lui. Je me levai. Je vais te préparer une infusion de feuilles d'hélène pour ton œil. Je te l'apporterai cet après-midi.
Ne m'apporte rien. Ne t'occupe pas de moi. Va ton chemin et fais-toi la vie que tu veux. J'en ai soupé de toi.
Il parlait au mur, et dans sa voix ne perçait nulle compassion, ni pour lui, ni pour moi. Je me retournai une dernière fois en quittant l'infirmerie. Burick n'avait pas bougé, mais même de dos, il paraissait plus vieux et plus fragile. Et c'est ainsi que se passa mon retour à Castelserre. Je n'étais plus l'adolescent naïf qui en était parti. On fit peu de cas du fait que j'ai survécu contrairement à l'opinion générale, et je ne donnais d'ailleurs à personne l'occasion de s'en réjouir. Du chevet de Burick, je montai tout droit à ma chambre, fis ma toilette et changeai de vêtements, puis je dormis, mais mal. Durant toute la fête du printemps, je pris mes repas la nuit, seul, dans les cuisines. Je rédigeai une note au roi subtil pour l'informer de la possibilité que les pirates fissent souvent relâche à Forge pour refaire leurs provisions d'eau douce. Il n'y donna pas suite, et j'en fus soulagé. Je n'avais envie de voir personne. En grande pompe, Galen présenta son clan définitif au roi. À part moi, un seul candidat n'était pas revenu à temps. J'ai honte aujourd'hui d'être incapable de me rappeler son nom, et d'avoir oublié ce qu'il advint de lui, si je le sus jamais. À l'instar de Galen, j'ai dû l'écarter de mon esprit comme une chose sans valeur. de tout cet été-là, Galen ne m'adressa qu'une fois la parole, et encore, de façon indirecte. Nous nous croisâmes dans la cour peu après la fête du printemps. Il était en train de bavarder avec Royal, lorsqu'il me jeta un coup d'œil, et fit d'un ton sarcastique « Il a davantage de vie qu'un chat !» Je m'arrêtai, et les dévisageai jusqu'à ce qu'ils soient obligés de me regarder. Je plantai mes yeux dans ceux de Galen, puis je souris, et hochai la tête. Jamais je ne lui parlais de sa tentative pour m'envoyer à la mort. Quant à lui, de ce jour, il fit comme s'il ne me voyait pas. Son regard glissait sur moi quand il me rencontrait, ou bien il s'éclipsait lorsque j'apparaissais dans une pièce où il se trouvait. En perdant Martel, j'avais l'impression d'avoir tout perdu. À moins que, désespéré, je n'eusse moi-même cherché à détruire le peu qui me restait, toujours est-il que j'errais des semaines durant dans la forteresse, en m'ingéniant à insulter tous ceux qui avaient la naïveté de m'accoster. Le fou finit par m'éviter. Imbre ne m'appela pas une seule fois. Je vis patience à trois reprises. Les deux premières, je répondis à son invitation, mais restai à la limite de la politesse. La troisième, assommé par son babillage sur la taille des rosiers, je me levai et pris la porte, tout simplement. Elle ne me fit plus jamais mander. Vint un moment, pourtant, où je sentis le besoin d'avoir de la compagnie. La disparition de Martel avait laissé un gouffre béant dans mon existence, et je n'avais pas prévu que mon exil loin des écuries pût me causer une telle douleur. Mes rencontres de hasard avec Burick étaient affreusement tendues, car nous apprenions péniblement chacun à faire semblant de ne pas voir l'autre. Je mourais d'envie d'aller trouver Molly, de lui raconter tout ce qui m'était advenu, toute ma vie depuis mon arrivée à Castelserre. Je me représentais assis sur la plage avec elle, occupé à vider mon sac, et quand j'en aurais fini, loin de me juger ou de me donner des conseils, elle me prendrait simplement la main et resterait sans bouger, là, près de moi. Enfin, quelqu'un saurait tout, et je ne serais plus obligé de lui cacher quoi que ce soit. Et elle ne se détournerait pas de moi. Je n'osais pas imaginer plus loin que cela. Je me languissais de ce moment, tout en le redoutant, rongé par la peur d'un adolescent face à une bien-aimée de 2 ans plus âgée que lui. Si je lui rapportais toutes mes infortunes, ne verrait-elle pas en moi qu'un enfant malheureux, et ne m'offrirait-elle que sa pitié? M'en voudrait-elle de tout ce que je lui avais dissimulé? 10 fois cette pensée détourna mes pas de Bourg de Castelserre. Mais 2 mois plus tard, lorsque je m'aventurais enfin dans la ville, mes pieds perfides m'entraînèrent jusqu'à la chandellerie. J'avais, comme par hasard, un panier au bras, contenant une bouteille de vin de cerise et 4 ou 5 petites roses jaunes et fort épineuses, obtenues au prix de maints lambeaux de peau dans le jardin des femmes, où leur parfum éclipsait même celui des parterres de thym. Je m'étais convaincu de n'avoir aucun plan. Rien ne m'obligeait à raconter à Molly quoi que ce soit sur moi. Rien ne m'obligeait même à la voir. Bref, je déciderais selon les circonstances. Mais je devais m'apercevoir que toutes les décisions avaient déjà été prises, et que je n'y avais aucune part. J'arrivais au moment où Molly quittait la boutique, au bras de Jade. Ils étaient penchés l'un vers l'autre, et elle s'appuyait sur lui, tandis qu'ils se parlaient à mi-voix. Dans la rue, il se tourna vers elle, et elle leva les yeux vers lui. Et lorsqu'il avança une main hésitante pour lui toucher la joue, Molly devint soudain une femme que je ne connaissais pas. Notre différence d'âge était un gouffre immense que je serais à jamais incapable de combler. Je reculais derrière le coin de la rue avant qu'elle puisse m'apercevoir et me détournais, le visage baissé. Ils passèrent devant moi sans me remarquer plus qu'un arbre ou une pierre. Elle avait posé sa tête sur l'épaule de son compagnon et ils marchaient à pas lents. Il fallut une éternité avant qu'ils ne disparaissent à ma vue. Ce soir-là, je m'enivrais comme jamais, et je me réveillais le lendemain dans un fourré, le long de la route du château.